Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est Mediapolis. Aujourd'hui, que des femmes. Justine, bien sûr, Catherine Ney, évidemment. Et notre invitée, Françoise Fressos, éditorialiste au Monde. On est là pour compenser le grand jury, disait François Geffrier. C'est donc Mediapolis, l'émission préparée par Capucine Patouillet et réalisée avec Jean-Luc Arblade pour que la gente masculine soit quand même présente. Et elle l'est aussi avec Canteloup.
On reçoit Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le président.
Oui,
toujours
bonjour.
À propos de cet attentat de Bayonne. Alors, ce vieux monsieur de 84 ans a tout de suite été interpellé par la police.
Oui, écoutez, formidable. Formidable. Les Américains font péter le terroriste number one au monde et nous, on a réussi à plaquer au sol un petit vieux de 84 balais. Vous avez lu la news comme moi. L'individu a pris la fuite. C'est ce qui est marqué partout. J'aurais aimé voir ça. Un petit vieux de 84 ans qui part en courant, qui démarre en trombe, en deux chevaux pour fuir à 25 km/h dans les rues de Bayonne. Non, franchement, ça devait pas être spectaculaire. Ça devait plus ressembler à un épisode de Derry qu'à Fast and Furious. Hein. Donc, bravo à mon cri-cri castaner pour cet exploit.
Le tireur de la mosquée de Bayonne, toujours lui, voulait, dit-il, venger Notre-Dame. Bonjour Stéphane Bern.
Oh, ma Julie, mon Mathieu. Oui, je suis chapin, je suis colère. Mais enfin, mais pourquoi, je le dis à ce monsieur, mais pourquoi tu as tiré au fusil devant une mosquée pour venger Notre-Dame, vieux trou du cul? Non mais franchement, c'est pas les musulmans qui ont détruit Notre-Dame, c'est du feu. Hein, et du feu et des musulmans, je vais être pédagogique, c'est pas pareil.
Bon, c'est vrai que venger Notre-Dame, c'est curieux hein, comme motivation.
Mais oui, non, mais si franchement il voulait être utile à Notre-Dame, c'était pas en brûlant une mosquée, c'était en prenant sa petite ruelle, hein, son petit ciment prise rapide et en avant guingant. Alors s'il y a d'autres fous qui veulent venger Notre-Dame, faites plutôt cramer votre carte bleue à Castorama et venez vous nous aider.
Bon sang, c'est pas faux, Stéphane.
C'était donc Canteloup mercredi. Emmanuel Macron, dont on avait appris qu'il allait prendre de la distance, qu'il allait intervenir moins, n'a cessé d'intervenir, alors une première fois, de façon à peu près consensuelle et intelligible. Écoutez.
Je veux, comme vous l'avez fait, à côté de la synagogue dans laquelle nous étions ensemble tout à l'heure, avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne lors de l'attaque d'hier, parce qu'ils croyaient et venaient prier. La République fait bloc autour d'eux, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent.
Donc ça, c'était mardi sur Europe 1. Mais ensuite, nous avons eu aussi une intervention sur RTL, une intervention longue dans Valeurs Actuelles. Longue, mais est-ce qu'elle était claire, Françoise Fressos, d'une part? Et avant peut-être ça, est-ce que, puisqu'il y a eu polémique sur le sujet, est-ce que c'était une bonne idée de donner cet entretien à Valeurs Actuelles, hebdomadaire, on va dire, ultra-droite?
Ce qui m'a frappé dans cette interview, c'est qu'au fond, on avait l'impression que le président découpait la France en un marché électoral et qu'il lui fallait travailler un segment de l'opinion, ce segment au fond de la droite filloniste qui peut basculer du côté de Marine Le Pen parce que cet électorat-là est travaillé par les questions identitaires. Je trouve que dans la période actuelle, c'est un peu jouer avec le feu, mais peut-être ne pas être au niveau de cette attente qu'on a vis-à-vis du président de la République, de redire exactement qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble et comment on se dépatouille dans la société française de ses origines multiculturelles et qu'est-ce qui fait encore bloc dans la société française. Et là, on a l'impression qu'au contraire, il continue de travailler au fond des segments au lieu de considérer le pays dans son entier. Et donc, je pense que c'est une erreur pour moi, cette interview à Valeurs Actuelles. Non qu'il concède des choses, hein, il plaide assez bien sa position, mais il y a comme une... au fond, une non-réponse à une attente qui est qu'est-ce que le président de la République a à dire sur tous ces sujets qui travaillent en profondeur la société française.
Catherine Ney.
Oui, moi je pense que ça, je ne veux pas dire qu'il a eu tort de donner cette interview à Valeurs Actuelles, puisque j'y lis mon édito toutes les semaines. Mais je pense que sur un sujet qui concerne tout le monde, peut-être qu'on attendait un grand discours de lui dans un lieu plus neutre, et qu'il dise vraiment sa pensée. Alors là, ce n'est pas vraiment une interview, c'est une conversation avec, comme ça, à bâton rompu, avec des journalistes, qui est très intéressante, où il, quelquefois il s'avance lorsqu'il dit que il, tous les indésirables, c'est-à-dire que tous les immigrés, tous les
irréguliers,
il va les renvoyer à 100%. Moi, je trouve qu'il s'avance et ce n'est pas tenable. Bon, mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il est pour lutter contre la le communautarisme, contre la radicalisation et sur le voile, mais on en parlera peut-être après. Là, il prend une position qui est quand même très modérée et qui n'est pas forcément dans la ligne du journal.
Oui, j'ai surtout l'impression qu'il y a un problème parce que, d'une part, il énonce une difficulté, mais une nécessité, qui est d'arrêter les amalgames. Donc de ne pas confondre islam et communautarisme, communautarisme et intégrisme religieux et terrorisme. Bon. Mais une fois qu'il a dit ça, il n'explicite pas de façon intelligible.
Oui, et puis il y a l'autre chose qui est très intéressante, mais au fond, qui est... c'est à chaque fois le même sujet. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, en septembre, il dit, au fond, il y a un problème sur l'immigration, il faut que je le prenne à bras-le-corps, voilà. Et puis, tout d'un coup, on a un événement sur l'islam, c'est-à-dire l'attaque à la préfecture de police de Paris. Et donc, immédiatement, vous avez un amalgame entre immigration et islam. Et là, à ce moment-là, cet amalgame, c'est quand même Marine Le Pen qui le fait. Et l'amalgame, c'est aussi un certain nombre de personnes, comme Éric Zemmour, qui le font de façon ouverte. Donc, à partir de là, le président de la République, il est sur la défensive. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, au lieu d'avoir repris la main sur un sujet en disant, voilà, il y a une question qui se pose, il faut que je la traite, au fond, il se trouve embarqué lui-même dans un amalgame dont il n'arrive pas à se sortir. Et je pense que c'est une des raisons qui explique que ces prises de parole, finalement, se multiplient, parce qu'à chaque fois, il est rattrapé par l'actualité, mais qu'on est toujours en manque de ce grand discours qui repose la question à la fois de la laïcité, de la lutte contre le communautarisme, et au fond, de l'accueil quand même des musulmans en France.
Oui, mais je crois aussi que ce qui a étonné son entourage, c'est... de découvrir, d'ailleurs, la veille de la parution dans le journal, qu'il y avait cette interview, parce que personne n'était prévenu à l'Élysée.
On dit même que le chargé de communication aurait failli démissionner.
Oui, donc donc on dit là, il répondait presque à une pulsion personnelle, c'est-à-dire qu'il a rencontré les journalistes de Valeurs Actuelles qui lui demandaient effectivement une interview depuis longtemps. Et pourquoi a-t-il cédé à leur sollicitation tout d'un coup? C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas pensé, remis dans une stratégie d'ensemble pour prendre un peu de hauteur par ces événements qui sont si complexes, et qu'il y a ces digressions, ces interrogations, enfin non, ce qu'il pense sur des sujets comme ça, mais de manière morcelée. Et
Moi je suggère à Emmanuel Macron de renforcer son équipe de communication à l'Élysée en recrutant Catherine Ney. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas que Macron qui est un peu parfois dans la confusion, il y a aussi la droite qui en rajoute et en rajoute dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, on vous retrouve Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ce samedi, vous recevez l'éditorialiste au Monde et essayiste Françoise Pressos.
Comme nous disions il y a quelques minutes, la droite, les Républicains, la droite gouvernementale, la droite classique, nous en rajoute jour après jour dans le concours Lépine des mesures à prendre, disons-le clairement, qui peuvent être perçues en tout cas comme contre les musulmans. Dernier exemple ou avant-dernier exemple en date, Bruno Retailleau, Europe 1 mardi.
Tous ceux qui ont écouté le débat, le pauvre Jean-Michel Blanquer, il était roué. Écoutez, on voyait bien qu'il avait des convictions et puis qu'il soutenait une position qui avait fait l'objet d'un arbitrage au-dessus de lui. Il avait même dit, il avait été plus loin que nous, il avait dit, le voile n'est pas souhaitable, non pas dans les sorties scolaires, mais dans la société. Et nous, on lui disait, mais non, mais le voile ne doit pas exister parce qu'on doit protéger les enfants qui sont des consciences en construction. Donc il faut des règles d'une neutralité. Et malheureusement, il a dit non à cette petite chose.
Alors, deux éléments. D'abord, je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile d'exprimer des pensées un tout petit peu nuancées, parce qu'elles sont immédiatement déformées. Quand Jean-Michel Blanquer dit qu'il pense que le voile n'est pas souhaitable dans la société française, on peut tout à fait penser que le voile n'est pas souhaitable et néanmoins trouver qu'il n'y a pas lieu de l'interdire. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, moi et beaucoup d'autres. Je veux dire, on n'est pas partisans d'une expansion du voile sur la tête des femmes, notamment parce que c'est un signe religieux et parce que ce n'est pas forcément une marque d'émancipation, et en même temps dire qu'on n'a pas à l'interdire parce que c'est la liberté de conscience. Mais non, somme Blanquer, on dit « Ah bah puisqu'il a dit ça, il devrait vouloir interdire ». Donc on ne peut plus exprimer une pensée un peu subtile. Mais surtout, je soumets à Françoise Fressoz et à Catherine Ney la thèse suivante. Un des problèmes des Républicains, c'est d'exister entre Macron et Le Pen. On y reviendra. Entre En Marche et le Rassemblement National. Sur le terrain économique, c'est avéré très difficile parce que Macron a fait globalement une politique plutôt orientée à droite. Restent les questions dites de société, identitaire, appelez-les comme vous voulez. Est-ce que ça n'est pas une erreur de tenir des propos ou faire des propositions très proches, voire identiques de celles de l'extrême droite, de celle du Rassemblement national, de la part des Républicains? Est-ce que, ce faisant, ils ne vont pas renforcer l'attraction de Marine Le Pen, Catherine Ney?
Ben oui, ça c'est possible. Et surtout, bon, cette proposition d'interdire la possibilité pour les mamans voilées de faire des accompagnements de sortie scolaire. Bon, déjà, Éric Ciotti avait déposé un amendement qui a été retoqué à l'Assemblée nationale. Bon, là, cette fois, c'est le Sénat qui revient à la charge. Avec quelle chance que ça soit voté, même inscrit? Là, la proposition du Sénat ne peut revenir que dans les propositions des Républicains, dans une niche qui leur est réservée, ce n'est pas avant le mois de mai. Donc d'ici là, beaucoup d'eau aura poussé sous les ponts, mais d'ici là, il y aura eu des élections. Donc,
L'eau ne pousse pas, aura coulé.
Donc, entre-temps, il y aura eu des élections municipales. Est-ce que c'est rentable pour des élections municipales de faire cette proposition? Moi, personnellement, je vais vous dire, je suis plus sensible à ce que dit Emmanuel Macron en disant, au fond, les mères voilées qui viennent accompagner des enfants à l'école.
Mères voilées qui, accessoirement, d'ailleurs, ne le sont pas. C'est juste parce qu'on n'a pas de mots pour dire foulardées, parce que leur visage n'est pas couvert.
On voit leur visage. Ce serait foulardées, si vous voulez. Bon, ben, emmène des enfants, visiter des monuments historiques. Bon, ça veut dire que, dans le fond, c'est un accompagnement à une intégration. On peut vivre, on peut dire que c'est culturellement, ça veut dire s'intégrer. Et si elles mettent leurs enfants à l'école et pas à l'école coranique, c'est qu'elles croient à cette école où leur enfant peut devenir quelqu'un et faire des progrès dans ces écoles. C'est même l'occasion peut-être de rencontrer d'autres mères non voilées, de se parler. Et moi, sur cette question-là, j'ai passé par plusieurs sentiments. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Emmanuel Macron, qui a changé, qui est enfin très content.
Pour deux raisons. D'abord,
il faut dire que Brigitte Macron est sur cette ligne-là. S'assure.
Oui, d'accord.
Les sorties scolaires.
Oui, mais voilà. Moi, je suis très content. Je suis d'abord très content d'être d'accord avec vous, mais je suis très content pour une raison plus profonde. C'est que je pense que nous avons tous. Ce ne sont que les proportions qui varient. Nous avons tous des parts de droite et des parts de gauche. Et là, je pense qu'on vient d'entendre la part de gauche de Catherine Ney. Françoise Fressoz, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce qu'a dit Catherine Ney.
Oui.
Donc, et c'est plutôt sur ma thèse, parce que ma thèse, elle est discutable, n'est-ce pas? Par exemple, Gérard Larcher m'a objecté. Non, on a raison de multiplier les propositions de loi sur le sujet, parce que si on met la poussière sous le tapis, c'est bien pire. Et moi, ma thèse, c'est pas de la poussière sous le tapis, c'est de l'huile sur le feu.
Oui.
Alors, est-ce que vous êtes sur la thèse mieux parce que c'est éviter la poussière ou non, pas comme ça, c'est l'huile sur le feu?
Alors, je pense que à chaque fois qu'on a dit il faut pas mettre la poussière sous le tapis, tous ceux qui l'ont dit se sont pris les pieds dans le tapis. Nicolas Sarkozy, le discours de Grenoble 2010, il peine à obtenir des résultats économiques parce qu'il y a eu la grande crise de 2008, donc il va le faire de l'identitaire pour essayer de récupérer l'électorat de Marine Le Pen. Et là, on arrive dans une sorte de début d'hystérisation du débat politique autour de l'islam, et qui gagne? Pas lui.
Mais voyez quand même comme c'est préoccupant. Ça veut dire.
Non, mais le discours de Grenoble, c'était la déchéance de nationalité. Là, il partait pas du voile. Hein. C'était,
il partait pas du voile. Mais il y avait quand même cette idée.
Il ne peut pas y arriver avec ses lames.
Oui. Pardon. Il y avait quand même cette idée, excusez-moi, de mélanger un peu immigration, islam, rejet de l'autre. Et c'était très mauvais.
Moi, je ne suis pas sur le discours de Grenoble. Là, je suis sur quelque chose de plus profond. Dans la lignée de ce que vient de dire Françoise Fressos, personne ne peut nier qu'il y a une question de comment traiter l'islam en France, comment faire qu'il n'y ait pas des prêches insupportables, comment faire pour régler le problème du financement, etc., etc. Personne ne peut nier qu'il y a un problème d'immigration en France, comment faire pour réguler l'immigration, comment faire pour que ce sujet ne mette pas les esprits en feu comme il est en train de le mettre un peu plus. Tout le monde, là-dessus, là, tout le monde est d'accord. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est vous qui venez de le dire, que aucun de nos présidents, et moi je dirais au-delà, aucun politique, n'arrive à nous tenir dessus, sur ces questions, un discours clair, intelligible et républicain.
Oui, mais pourquoi ? Parce que je pense que là-dessus, Marine Le Pen, au fond, a été celle qui a théorisé au fond cette espèce de mélange entre attention à l'immigration, attention à l'islam, à l'islamisme, et que dès que quelqu'un s'aventure sur ce terrain-là, c'est elle qui a l'avantage idéologique, parce qu'on n'arrive pas, au fond, la société est tellement divisée, morcelée là-dessus, qu'on n'arrive pas à avoir un débat. Au fond, on ne serait fort dans la République française que si on arrivait ensemble à dire, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des éléments sur l'islam radical et comment on peut lutter contre l'islam radical ensemble. Et au fond, à chaque fois que vous mettez le débat sur la table, vous allez à une division, à une surenchère, et on n'arrive pas à traiter. Mais sur la droite, j'ajoute peut-être quelque chose, c'est qu'il y a quand même maintenant, pour une partie de la droite, en se disant je suis bloqué par Macron, et peut-être qu'au fond, il faut maintenant qu'on ait peut-être une fusion droite extrême ou droite radicale pour essayer de revenir un jour au pouvoir. Et il y a aussi ça qui est très dangereux, parce que du coup, ça participe d'une stratégie politique qui fait que vous n'aurez jamais un débat sain sur la question de l'immigration et de l'islam.
Enfin, alors, indépendamment de la question des mots, il y a la question des actes. Et sur les actes, on a entendu quand même quelque chose d'un peu nouveau dans quelques instants.
Mediapolis continue avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Et aujourd'hui, ils sont accompagnés par Françoise Fressos, éditorialiste au Monde et essayiste.
Et Justine Catherine Ney qui vient de publier un livre absolument formidable qui s'appelle Souvenir, chez Robert Laffont. En vérité, je n'ai lu pour l'instant que 305 pages sur 347. C'est vous dire si je les déguste, et je vous les recommande à tous et à toutes. Et je ne vous dis pas ça parce qu'elle fait l'émission avec nous. Si je n'aimais pas le livre, j'aurais juste rien dit. Alors, donc,
merci.
Des actes et pas seulement des mots. Écoutez le Premier ministre.
Les services de l'État ont beaucoup de mal à attirer des fonctionnaires et beaucoup de mal à les retenir. Le rapport que m'a rendu le préfet propose une mesure assez inédite, à laquelle je souscris totalement. Cette mesure, c'est une prime de fidélisation pour les agents qui travaillent dans les services publics de l'État présents en Seine-Saint-Denis. L'idée serait de verser cette prime d'un montant de 10 000 euros en une seule fois à l'issue de 5 années de service effectif accompli. L'idée, c'est qu'elle bénéficie en particulier aux agents qui sont en première ligne de l'action de l'État ou aux services de l'État qui connaissent des difficultés manifestes en matière de ressources humaines.
Alors, juste avant que Catherine Ney ne commente cela, un petit détail au passage. Je trouve assez classe de dire que l'idée vient du préfet, parce que c'est quand même assez rare qu'un ministre, un premier ministre ou un président ne s'attribue pas les idées qui viennent d'ailleurs. Parenthèse fermée.
Oui, alors c'est vrai qu'il fut un temps où pour qu'un fonctionnaire accepte de partir dans les Outre-mer, il bénéficiait d'une gratification spéciale avec un salaire plus important.
Toujours.
Mais là,
cas,
maintenant, ça tient toujours. Là, maintenant, il suffit de traverser le périph et d'y rester, de vouloir y rester pour 5 ans, parce que la prime sera donnée au bout de 5 ans seulement, et renouvelable 2 fois, c'est-à-dire que 20 000 euros.
Mais ce n'est pas absurde, si.
Ah ben, ce n'est pas absurde du tout. Non, ce n'est pas absurde du tout, surtout qu'en Seine-Saint-Denis, notamment dans l'éducation nationale, où 2/3 des enseignants sont des nouveaux, c'est ceux qui sortent de l'école. Et puis, et surtout, dans ce lot de nouveaux professeurs, 50% s'en vont au bout d'un an. Ce qui veut dire qu'on est incapable d'évaluer le niveau des élèves dans les écoles, faute de suivi. Donc il faut absolument, et surtout dans les écoles, organiser ce suivi, alors que logiquement, il faudrait dans ces écoles que ce soit des professeurs aguerris, d'abord par l'autorité, qui sachent tenir leur classe, qui aient déjà l'habitude de faire des classes. Et donc, alors, est-ce que ça va tenter des jeunes professeurs de dire, eh bien, on reste 5 ans c'est long, et vous aurez 10 000 euros, ce qui n'est pas rien, c'est une somme. Et puis, à qui s'adressent ces sommes? Parce que là, le Premier ministre n'a pas dit exactement à qui. Est-ce que c'est la même chose pour les policiers? Est-ce que c'est la même chose aussi pour dans les hôpitaux? Parce que les aides-soignants, les urgences, comme ça, est-ce qu'ils auront aussi les mêmes primes? Donc, mais enfin, moi, je pense que c'est une bonne chose.
François Fressos?
Oui, moi aussi, je trouve que c'est une bonne chose. En fait, ce que vous soulignez au début est intéressant. Ça vient du préfet, mais le préfet l'a fait aussi parce qu'il a énormément concerté localement. C'est-à-dire, ce sont vraiment des propositions qui remontent du terrain et du besoin. Alors, on peut effectivement être choqué en disant, bon, Seine-Saint-Denis, il faut maintenant faire de la discrimination positive par les primes pour fidéliser les fonctionnaires. Mais c'est la réalité, en fait. Aucun enseignant n'a envie d'aller enseigner en Seine-Saint-Denis parce que c'est beaucoup plus difficile. Les policiers, pareil, où il reste beaucoup moins que dans les autres départements. Et donc, il y a besoin d'un renforcement de la présence de l'État, et c'est une manière d'y arriver. Alors, si c'était que ça, les mesures pour la Seine-Saint-Denis, on se dirait, bon, on constate une faillite, on n'y arrive pas. Il y a quand même derrière aussi toute la politique du Grand Paris, il y a aussi les Jeux Olympiques qui vont arriver, et qui vont peut-être faire que ce département, qui est à la fois en grande difficulté, mais qui est aussi en grand dynamisme, notamment par sa diversité, peut s'en sortir. Donc on peut dire que les mesures prises et annoncées cette semaine peuvent permettre provisoirement d'aider le département à relever le niveau et en tout cas à s'en sortir des difficultés. Ah oui. Mais que c'est voilà, le développement économique qui pourra peut-être l'aider.
D'accord. La question est, pourquoi est-ce qu'on n'a pas songé à faire ça avant?
Faut pas croire que rien n'est fait.
Non, j'ai pas dit rien.
Parce que je crois que là, il y a eu d'abord un rapport très bien fait par Bernard Cornu-Gentil et un autre député dont j'ai oublié le nom et qui a passé plusieurs mois, qui a vu beaucoup de monde et qui avait vraiment fait un état des lieux pour le gouvernement, qui à partir de là, les ministres sont beaucoup allés en Seine-Saint-Denis.
C'est l'autre bonne chose, en effet, c'est que c'est un rapport parlementaire qui sert à quelque chose.
Voilà,
vous souvenez que du nom du rapporteur de droite et pas de celui de gauche, ça c'est de votre côté droit.
Il s'appelle Coquadou, et il est député de La République En Marche, je crois.
Ah mais voyez, c'est...
Bon, allez, c'est écoutez, pour une fois que tout le monde est d'accord, on va faire une petite pause.
L'essayiste et éditorialiste au Monde, Françoise Fressos, est l'invitée d'Olivier Duhamel et Catherine Ney ce samedi dans Mediapolis.
Et parmi les événements médiapolitiques et d'ailleurs médiapopulistes de la semaine, parce qu'on va finir par inventer... On a inventé dans cette émission le néologisme médiapolitique, hein, qui a pris absolument. Il faut dire qu'en 13 ans, c'est normal qu'on y arrive. Et maintenant, je me demande s'il ne va pas falloir inventer médiapopuliste. Limite a de nouveau été franchie par l'actuel président des États-Unis Donald Trump et sur ABC a été réalisé un montage qui compare l'annonce de la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi par Donald Trump et celle en 2009 par Barack Obama de Ben Laden. Alors, les rires que vous allez entendre quand il s'agit de Donald Trump ont évidemment été rajoutés dans le montage. Mais sinon, les propos sont les propos réels tenus par Trump il y a 10 ans et par Obama il y a 10 ans et par Trump cette semaine. Écoutez.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
The United States launched a targeted operation against that.
Les États-Unis ont lancé une opération ciblée. Ils ont beaucoup tiré. Plein d'explosions.
Through the front door, you know, you think you go through the door. If you're a normal person, you
pour passer la porte. Normalement, vous faites toc toc puis entrez.
They killed Osama bin Laden and took custody.
Ils ont tué Ben Laden et capturé son corps.
Like a dog.
Il est mort comme un chien.
A beautiful dog.
Un très beau chien.
To give thanks for the men who carried out this operation.
And I don't get any credit for this, but that's okay. I never do.
May
God bless you. And may God bless the United States of America.
And I'm writing a book.
Obama, que Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis. Trump, et j'écris un livre, j'ai écrit 12 livres. Peut-être que, par-delà le ridicule, le pire, c'est d'avoir dit « il est mort comme un chien ». Françoise Fressos.
En fait, on est dans une situation politique où vous ne parlez plus à un peuple en général, mais vous parlez à une tranche de votre électorat. Et je pense que ce qui se passe aux États-Unis est très symptomatique. Trump est dans l'obligation d'essayer de consolider absolument son électorat, parce qu'il est quand même en grande difficulté, et qu'une façon de le faire, c'est effectivement d'en rajouter... de façon aberrante par rapport à ce qu'avait fait Obama quelques années plus tard. Et de façon... On voit même les effets sur la scène politique intérieure sont assez faibles, au fond, parce que, vous savez, il est dans cette procédure d'impeachment. Une bonne partie des Américains commencent à se demander quel type de président ils ont. Donc, il en a fait des tonnes autour de cet événement, qui peut avoir des répercussions, parce que je pense qu'effectivement, ça peut entraîner des actes terroristes, et en tout cas, une répression, une riposte très forte. Il le fait en escomptant un bénéfice électoral intérieur, et je trouve que c'est ça, au fond, le plus triste qu'on voit dans la situation actuelle, c'est une incapacité à incarner une fonction de façon noble et d'essayer de toujours aller dans les instincts les plus bas des gens pour essayer de récupérer une partie de l'électorat.
Oui, moi j'ai trouvé le récit de Donald Trump, où il ment d'ailleurs, parce qu'il raconte comment il avait peur, qu'il pleurait, qu'il implorait de ne pas les Américains de ne pas le tuer, enfin... Il raconte une chose qui n'a pas existé. Les militaires n'ont pas du tout cette version-là. Donc c'est absolument obscène de croire qu'il va plaire à un électorat. Et moi, je crois que c'est très, très contre-productif. Et comme le dit François, ça peut entraîner des ripostes, des attentats. Parce que traiter un musulman de chien, c'est vraiment l'injure suprême. Et même, quel que soit ce que l'on peut reprocher au leader de Daesh, on ne parle pas comme ça. C'est vraiment, c'est très, très, très choquant. Et je vois aujourd'hui que Trump a annoncé qu'il n'habiterait plus, si son mandat se termine, il n'habitera plus New York, et que les New Yorkais ont dit, bon débarras, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Donc moi, je crois que ça peut même être contre-productif, parce qu'on voit que chez les Républicains, sa cote qui était forte est quand même en train de faiblir, et que l'électorat, peut-être, je ne sais pas, au centre du pays, qui lui est toujours aussi fidèle, mais peut-être que les Américains vont réagir, et peut-être que sa réélection, que l'on jugeait presque, c'était comme déjà joué, bien, peut-être pas.
Oui. Absolument. Je suis d'accord avec vous, ça va même être très intéressant de le voir. C'est-à-dire qu'à chaque cran supplémentaire, dans la pitrerie, dans la vulgarité...
Dans la bouffonnerie.
Dans la bouffonnerie, dans l'ignorance, hein, qui croit qu'il y a une frontière entre le Colorado et le Mexique, enfin bon, etc., etc. Grande surprise, ça ne décrochait pas son soutien chez les électeurs républicains. Et donc, d'aucuns l'ont déduit, bah, il peut y aller sans aucune limite, ça ne décrochera jamais. Et il semble que là, il y ait un décrochage. C'est-à-dire que quand même, il y a une limite. Les limites sont incroyablement repoussées par rapport à ce qu'elles ont été pendant deux siècles. Ça, c'est incontestable. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. À suivre, et à suivre notamment avec l'affaire de la procédure d'impeachment dans quelques instants.
De 10h à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney, qui reçoivent ce matin Françoise Fressos, essayiste et éditorialiste au Monde.
Et Françoise Fressos, Justine, qui évoquait tout à l'heure l'impeachment, puisqu'en effet, jeudi, la Chambre des représentants a voté l'engagement d'audition publique pour décider s'il y avait lieu ou pas de proposer l'impeachment, qui du coup dépendrait du Sénat. Donc Alice Baudry, directrice de la stratégie de développement à l'Institut Montaigne, nous a déniché un article du New York Times, publié juste après ce vote, dont je vous cite le plus significatif. Avant que la Chambre ait voté jeudi en faveur de l'enquête de destitution du président Trump, deux des législateurs les plus conservateurs du caucus, deux législateurs les plus conservateurs mais démocrates, ont fait le pari que certains de leurs collègues pourraient s'unir pour s'opposer à la mesure avec eux. Ça ne sera peut-être que nous, avait-il néanmoins précisé à la presse. Et effectivement, jeudi, Les démocrates ont uni leurs forces, les républicains s'étant unanimement opposés à la résolution. 232 voix pour côté démocrate, 196 contre côté républicain. Mais le représentant Jeff Van Drew du New Jersey et le représentant Colin Peterson du Minnesota, tous les deux démocrates connus pour être des épines conservatrices du parti républicain au sein des démocrates, sont restés en marge. Leurs votes n'ont pas été aussi surprenants pour les démocrates, dont la vaste majorité s'est rapidement ralliée à la résolution qui a ouvert la voie à une nouvelle phase publique du processus. Les deux hommes s'étaient publiquement exprimés sur le fait que la mise en accusation créerait beaucoup de divisions et serait vaine. « Je ne veux pas diviser davantage le pays », a déclaré M. Van Drew à la presse après son vote. « Au final, nous nous retrouverons avec le même président et candidat à la présidence qui pourra dire qu'il est exonéré. Donc je ne sais pas à quel point nous gagnons vraiment à faire cela. » Cette thèse, évidemment, François Fressos, vous n'êtes pas spécialiste de la politique américaine, mais vous avez une vue générale sur la politique qui vous permet parfois d'y voir plus clair que ceux qui ont le nez sur le guidon. Il y a donc cette thèse des deux démocrates, je la résume, qui n'ont pas voulu voter en faveur de l'enclenchement des auditions publiques sur l'impeachment, en disant, au total, ça risque de servir Trump.
Comme vous dites, je ne suis pas du tout une spécialiste de la politique américaine. Ce qu'on peut constater juste, c'est que toutes les procédures d'impeachment aux États-Unis n'ont jamais abouti jusqu'au bout, mais en revanche, ce qui peut jouer énormément, c'est l'impact sur l'opinion publique. Et là, on sent quand même qu'il y a 49% des Américains qui sont favorables à la destitution aujourd'hui. Donc, Trump qui pouvait considérer...
Et moins qui sont opposés, parce qu'il y a les sans opinion.
Oui,
dit comme
exactement.
Ça, on pourrait croire qu'il y a 51.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Trump qui pensait sortir vainqueur du bras de fer... On sent quand même qu'il est affaibli par ce qui se passe aujourd'hui, sans doute aussi par la multiplication des polémiques, et sur les interrogations à sa capacité à gouverner, sur effectivement comment il a géré aussi l'affaire dont on a parlé précédemment. Et donc, cette procédure-là, même si elle n'aboutit pas, elle est quand même, je pense, difficile à gérer pour Donald Trump. On voit aussi les rapports incroyables qu'il a avec la Chambre des représentants, cette espèce de pays qui est complètement divisé et c'est quand même une interpellation aussi sur le fonctionnement de la démocratie américaine.
Ça c'est sûr. J'ai lu, c'était dans Le Monde du Livre cette semaine, je vous lis un extrait de ce qu'a dit dans un livre La Frontière de Dan Winslow. « Mon pays a voté pour un raciste, un fasciste, un gangster, un être narcissique qui se pavane et fanfaronne, un homme qui se vante d'agresser les femmes, qui se moque d'un handicapé, qui copine avec des dictateurs, un menteur, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il y a quand même une violence dans l'opposition à Trump, d'emblée, qui, au moins pendant longtemps, n'a pas été productive. N'a pas été, et même a été contre-productive. Je ne parle pas de ça, qui est dans un livre, truc, mais on se souvient de... Je crois que c'est De Niro qui avait fait une vidéo l'insultant. On se souvient de Hillary Clinton insultant les électeurs qui votaient Trump. Et donc, c'est très difficile de trouver la ligne de crête entre la critique fondée, parce que quand même, on l'a entendu tout à l'heure, Catherine Ney nous dire qu'elle trouvait ça obscène. C'est le mot que vous avez employé, Catherine.
Oui, je maintiens obscène. Et on est content quand même de ne pas avoir d'éditorialistes qui écrivent ce que vous venez de lire sur un président français, quel qu'il soit. Hein.
Voilà.
Je veux dire... Alors, avoir un président comme Trump à la tête de la France, mais il y aurait de quoi se suicider.
Alors, tel que Trump, d'accord. Mais tel que Orban ou tel que Salvini, peut-être est-ce notre destin. Peut-être. Réponse dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney. Mais il y a aussi votre invité du jour, Françoise Fressos, essayiste et éditorialiste au Monde.
Sondage d'intention de vote réalisé par l'Institut Elab les 28 et 29 octobre pour BFM TV. Premier tour, Macron, moyenne 28%. Le Pen, moyenne 28,x%. 56% voteraient aujourd'hui Macron ou Le Pen. Mélenchon, 13%. Les écologistes qui ont fait un tabac aux européennes, Jadot, 6,5%. Et les grands partis de gouvernement, case 9 pour le PS, 5%. Pécresse, 5% pour les Républicains. Et si c'est Bertrand, à peine mieux, 9. Et si c'est Baroin, à peine mieux, 9,5. Total de nos deux partis de gouvernement qui ont gouverné ce pays de 1958 à 2017, 14%. On a totalement changé de monde politique, totalement. La rupture de l'élection présidentielle de 2017 n'est pas un accident, une parenthèse. C'est un changement d'air. Ça, c'est le constat. J'ajoute que lorsque on trouve aujourd'hui Marine Le Pen et Macron côte à côte dans les intentions de vote en premier tour de présidentielle, alors qu'il est président en exercice, je dis, redis ici ce que j'ai dit hier soir à LCI qui a choqué. Je pense que si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, Marine Le Pen serait élue. Est-ce que cette évaluation vous semble insensée, Catherine ?
Ben, c'est une opinion, c'est la vôtre.
C'est une analyse, hein, c'est pas une opinion.
C'est une analyse.
Non, opinion, vous allez faire croire que c'est une préférence. Non, c'est une analyse.
Bon, d'accord, c'est une analyse. Mais souvenez-vous, Marine Le Pen était partie en campagne avec 27% pour finir finalement avec 21,3% des voix au premier tour.
Point pour vous, c'est voilà. Vrai. L'histoire donc, ne se répète
bon,
pas, mais c'est vrai. Un point
c'est
pour
vrai
vous.
Que la donne a changé, mais surtout, la chance de Marine Le Pen, c'est que aucune dynamique ne se profile ni à droite ni à gauche comme candidat de rechange. Et c'est ça. Alors, est-ce que d'ici la prochaine élection présidentielle, est-ce qu'il peut y avoir un effet Macron avec quelqu'un d'autre qui surgirait? Si vous regardez dans les noms que l'on...
Là, oui. C'est très intéressant parce que Jaffray disait hier, c'est l'autre nouveauté de ce sondage, c'est que le système n'arrive plus à fabriquer des présidentiables. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agisse de Bertrand, qu'il s'agisse de Baroin ou qu'il s'agisse de Pécresse, on ne peut pas dire que le système médiatico-politique les cache, les enferme, etc. Au contraire, hein, entre les Paris Match, les chaînes d'infos, les invitations dans les grands jurys, les papiers dans Le Monde, dans Le Figaro, j'en passe et des meilleurs, ils sont quand même beaucoup, beaucoup mis en avant. Or, ça ne fonctionne plus, Françoise Fressot.
Ça ne fonctionne plus parce que je pense que c'est ce que vous décriviez au début, c'est-à-dire que l'élection après la dernière présidentielle n'était pas du tout un accident, mais c'était au fond l'aboutissement de l'impossibilité, et pour la gauche et pour la droite, qui avaient essayé de faire des coalitions, de parvenir à incarner ces coalitions sans qu'il y ait trop de tensions internes. Et on voyait bien que du côté de la gauche, il y a eu une explosion sous le quinquennat Hollande parce que la gauche n'était plus d'accord sur rien. Et à droite, on voit aussi qu'il y avait ces tensions entre la droite libérale et la droite identitaire très forte. Et donc, des deux côtés, personne aujourd'hui n'a réussi à reconstruire quelque chose qui soit en adéquation avec les attentes actuelles. Et par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est l'impossibilité de repenser l'écologie, alors qu'on est vraiment actuellement dans une grande révolution des esprits, notamment des jeunes, sur l'écologie. Et donc, ni la gauche ni la droite n'arrivent à se saisir de cette question-là, notamment. Par ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que au fond, l'électorat stratégique pour la prochaine présidentielle, c'est l'électorat filloniste. Et on voit dans le sondage que vous avez cité à quel point Macron et Le Pen se disputent cet électorat de droite qui est complètement en déshérence. Et quand vous dites « oui, Le Pen pourrait remporter la prochaine présidentielle », ça va dépendre de la capacité de Macron à garder auprès de lui cette droite qui pourrait être tentée par Marine Le Pen. Je pense que c'est la raison pour laquelle il va tellement sur les thèmes de l'immigration, de l'identité. La difficulté pour lui, c'est qu'on a l'impression qu'il a complètement perdu le fil de ce qu'avait été son quinquennat. Quel est le projet de société qu'il veut vendre aux Français? Et donc là, je trouve qu'il est en difficulté par rapport à Marine Le Pen, qui, elle, se contente de ressasser ses vieux thèmes, parce que le progressisme de Macron a complètement perdu aujourd'hui son fil conducteur.
Le progressisme de Macron a perdu son fil conducteur. Ça ne sera pas tout à fait la fin de l'émission, mais ce sera le dernier mot avant un erratum et la chanson. L'erratum. Benoît Pélistrandry, que j'ai cité la semaine dernière à propos du transfert du corps du général Franco, m'écrit que j'ai été approximatif, voire inexact, à propos de la basilique de la Vallée de los Caídos, car elle n'a pas été construite à la demande de Juan Carlos, mais bien par Franco à partir de 1940, que ce sont des prisonniers politiques condamnés à des peines de travaux forcés qui ont fourni le gros de la main-d'œuvre, qu'elle a été achevée en 1959, que là, Franco y a fait mettre le corps de l'ancien dictateur Primo de Rivera, le leader fasciste espagnol fusillé par les Républicains en 1936, et que Franco a fait inhumer ensuite 30 000 combattants de la guerre civile, dont 60% de Républicains. Donc, ce lieu est un point de fixation des débats mémoriels. Voilà pour l'ératome. Maintenant, il s'est passé autre chose dans la médiapolitique, médiapopuliste délirante cette semaine. C'est que la grande télévision, chaîne de télévision brésilienne TV Globo a mis en cause, a informé que dans une enquête policière à propos de l'assassinat d'une conseillère municipale de gauche à Rio de Janeiro, la personne soupçonnée d'avoir commis l'assassinat s'était rendue juste avant dans la résidence privée de Bolsonaro. Et donc, l'enquête risquait de mettre en cause Bolsonaro. Bolsonaro était en visite à l'étranger, à Riyad, et il a exigé, il a convoqué une caméra vidéo et il a fait 23 minutes absolument insensées à la télévision, diffusées dans la télévision, dans laquelle il injurie TV Globo. Je vous en donne juste un tout petit extrait.
Porca, nojenta, canalha, immoral, comme est TV Globo de rádio et télévision.
Porc, canaille, il y avait aussi merde, putain, pourriture, enfoiré sans scrupules, c'est une vraie saloperie, une saloperie. Alors c'est pas du Trump, c'est du Bolsonaro insultant la première chaîne de télévision brésilienne de l'étranger de surcroît.
Oui, oui, puis il a fait mieux, enfin mieux aussi, c'est qu'il est en train qu'un journal, le Folha, qui est l'un des plus grands journaux du Brésil, il a décidé maintenant que l'abonnement de ce journal à tous les organes gouvernementaux serait terminé, c'est-à-dire qu'il veut aussi contrôler la presse aujourd'hui.
C'est pourquoi j'ai choisi comme chanson Billy Django, d'une chanteuse que tous nos auditeurs ne connaissent pas, une jeune femme qui s'appelle Flavia Coelho, qui est une chanson de 2019. Flavia Coelho est un personnage métissé qui a écrit des textes, s'est mise à écrire des textes plus politique après l'élection de Bolsonaro. Je ne peux pas fermer les yeux, même en étant loin. Dans ma famille, il y a de tout, des métissés, des gens du Nord-Est, des homosexuels, tout ce qui est actuellement stigmatisé par le gouvernement brésilien. Et donc, elle, avec Billy Django, c'est un personnage fictif, inspiré du film Django Unchained de Tarantino, en lutte contre le pouvoir brésilien, Flavia Coelho tente de faire émerger un super-héros, sauveur du Brésil et de ses méandres actuels. À chaque fois, dit-elle, qu'il dit des conneries, il faut faire appel à ce Billy Django qui est en chacun de nous. Il est comme ça. Sans patience. Et il frappe tous ceux qui veulent frapper.
tanta discórdia. Pouca conversa. O ambiente pesado demais. Fazem de tudo para nos dividir. Um SOS. Sinais de fogo. Um candeeiro que queime sem parar.
Flavia Coelho vient de passer à la Cigale à Paris et elle sera à l'Espace Julien de Marseille le 15 novembre, à Saint-Étienne le 29. Elle va y te parler, elle va y te parler, il t'arrêtera, Django. C'était Flavia Coelho, c'était Françoise Fressos, c'était évidemment Catherine Ney, Jean-Luc Arblade et Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, Justine en studio. Faites-la écouter en podcast sur Europe 1.fr. Salut Mariotte.